Avec Hugo Bernalicis, député du Nord de la France insoumise, de passage ici à Arras et on peut dire de retour, hein, puisque vous êtes originaire d'Arras, de l'Arrajois en tout cas.
Oui, c'est ça, je suis né à Arras et j'ai fait une année de collège ici, une année dans le supérieur de prépa littéraire aussi. Voilà, donc j'ai grandi effectivement à la campagne du côté de Beaumais-les-Loges.
De passage ici pour une réunion publique sur le thème de la sécurité, on va en parler dans quelques instants, mais avant ça, forcément, on parle de l'actu sociale et politique chargée. Alors, quelle est votre analyse de la situation actuelle, Hugo Bernalicis ?
Écoutez, moi, je suis ravi que enfin. Ce qu'on disait depuis longtemps, c'est-à-dire, mais bon sang, quand est-ce que les gens vont réagir? Bon sang, quand est-ce que les gens vont se réveiller? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour agir? On est dans ce moment où le peuple, une partie substantielle du peuple, fait irruption sur la scène politique, sur la scène publique, et prend toute sa place dans le déroulement politique. Donc déjà, j'en suis ravi, et c'est une très bonne chose. Et en plus, c'est une mobilisation qui, au départ, part sur la hausse du taxe du carburant et finalement on voit que les revendications s'étendent bien au-delà de ça. Au départ, on a essayé de faire dire que c'était des idiots de la campagne, des racistes, des sexistes, des homophobes, etc. Je pense qu'il y en avait dans le lot, on va pas se cacher, mais c'est pas ça la masse des gens qui se mobilisent, et surtout ils se mobilisent plus assez rapidement sur le carburant, mais sur la vie chère en général et leurs problèmes de la vie en général. Et vous avez aussi énormément de femmes qui se mobilisent là-dessus, qu'on voit sur les ronds-points, qu'on voit dans les manifestations, ce qui est assez emblématique et important à remarquer, parce que les femmes sont frappées durement, plus que les hommes, par la précarité. La plupart des contrats partiels, ce sont des femmes. La plupart des smicards sont en fait des smicardes. Donc voilà, et vous avez une accumulation de problématiques. En plus, on reste dans une société patriarcale où la femme, même quand elle rentre à la maison, elle continue sa deuxième journée de travail, pour ainsi dire. Et qu'en plus, il y a les inégalités salariales où vous avez les femmes qui sont en moyenne payées 15% de moins que les hommes. Donc toute cette situation, cette colère, cette injustice, cette souffrance qui est profonde dans le pays, s'est enfin réveillée. Et s'est politisée de sorte à avoir des revendications qui sont à la fois des revendications sociales, sur la vie chère, donc là, très vite on a parlé de la hausse du SMIC, très vite on a parlé de supprimer la CSG pour les retraités, c'est ça qui était sur la table, et puis des revendications démocratiques. Mais bon sang, comment se fait-il que ceux qui nous gouvernent, que ceux qui sont censés nous représenter, au premier chef desquels les députés, n'aient pas conscience de ça, de cette réalité-là du pays? Pourquoi les lois qu'ils font, alors qu'ils nous annoncent que c'est censé mieux se passer pour nous à la fin du mois, ça empire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens ont l'impression de s'être fait arnaquer une fois de plus. Je dis une fois de plus parce qu'en réalité, politiquement, c'est la même recette politique qui est utilisée sous le quinquennat actuel, qui était utilisé sous le quinquennat précédent et qui était utilisé aussi sous le quinquennat d'avant. En réalité, c'est la feuille de route de la Commission européenne qu'on dénonce déjà depuis un petit bout de temps, mais qui là frappe aux yeux du grand nombre. Et puis, on a essayé de faire dire aussi que ces gilets jaunes, parce que c'est de ça dont il s'agit, les gilets jaunes, étaient anti-écologiques, hein, qu'eux, ils voulaient pouvoir rouler avec leur bagnole tranquillement, etc. Et même ça, ce n'est pas le cas, et que tous ces braves gens se disent « mais moi, je veux bien acheter du bio ». Sauf que j'ai pas la paye pour acheter du bio. Moi, je veux bien acheter une voiture hybride ou électrique et faire autre chose, mais j'ai pas l'argent pour faire le prêt, pour faire l'avance, etc. J'ai pas cette capacité à m'endetter. Moi, je veux bien me déplacer à vélo, mais je fais comment pour amener les gamins à la crèche et pour aller bosser à 30 km parce que mon emploi il est en ville, parce qu'on a tout concentré dans les villes. Donc, en réalité, on voit qu'il y a une demande de justice sociale, de justice écologique et climatique, et de justice, enfin en tout cas de plus de démocratie. Et ça, pour le député de la France insoumise que je suis, ça me va. C'était le triptyque qu'on a avancé, qu'on a développé pendant la campagne présidentielle. Faire face à l'urgence sociale, à l'urgence écologique et à l'urgence démocratique, et mêler les trois, de sorte à ce qu'on ait une écologie populaire, qu'on ait une redistribution des richesses, et qu'on passe à une 6e République. Donc vraiment, mon analyse de la situation politique, c'est que c'est bien que les gens se bougent et ce serait bien que le pouvoir cède. Parce que pour l'instant, il ne cède pas et il s'entête et il continue. À la fois le président Macron, par orgueil, par ce refus de voir que les solutions qu'il applique ne sont pas les bonnes, enfin plutôt, elles ne sont qu'au bénéfice de toujours les mêmes, les plus riches de ce pays.
Samedi dernier, vous étiez à la marche des Gilets jaunes à Lille, marche qui a rejoint la marche climat, quelque chose dont on a peu parlé finalement au niveau national, les deux mouvements qui se rejoignent.
Oui, alors j'étais à Bordeaux, j'étais pas à Lille. J'aurais bien aimé être à Lille, mais on avait une réunion nationale de la France insoumise à Bordeaux le week-end dernier. Mon cœur était pris entre les deux, donc je suis quand même allé à la réunion nationale. On avait beaucoup de militants qui étaient à Lille dans la mobilisation, donc de toute façon, on y était représentés au moins. Oui, c'est un événement. Et c'est ça qui permet, très bien de m'en parler, de me parler du week-end dernier, parce que c'est le grand oublié de ce week-end. Il y a eu un grand oublié du week-end encore d'avant, c'était le fait qu'il y ait des syndicalistes aussi qui se mobilisaient le 1er décembre et qui ont rejoint aussi les Gilets jaunes. Donc deux week-ends de suite, on a eu un élargissement de la mobilisation où un coup c'était les syndicalistes qui se sont rapprochés des Gilets jaunes et là cette fois-ci les militants écologistes, mais en fait les gens qui se mobilisaient déjà, surtout en ville par ailleurs, pour le climat, en tout cas contre le réchauffement climatique ou le changement climatique. Donc, cette jonction, elle s'est faite et elle vient encore une fois de plus étayer l'idée que non, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement anti-écologiste, c'est pas un mouvement poujadiste, anti-taxe, et puis laissez-nous vivre, laissez-nous polluer tranquillement. Et ça, c'est vraiment très important pour la suite des événements, de montrer que ce mouvement des Gilets jaunes a une vraie maturité politique et que oui, le peuple, dans sa profondeur, dans sa grande généralité et dans sa grande majorité, est un peuple qui est prêt à l'écologie politique, pour peu que l'écologie, ça facilite la vie, ou en tout cas qu'on crée les alternatives concrètes qui rendent cette écologie possible. Quand je vous disais sur le bio, c'est un des aspects, mais il faut augmenter les salaires pour pouvoir se payer du bio, pour que l'agriculteur puisse être mieux rémunéré lui-même et mieux vivre, parce que je vous rappelle que c'est une des professions aussi à la plus forte taux de suicide. Et puis pour les mobilités, si les gens veulent qu'ils utilisent moins la bagnole, va falloir remettre des trains. Elles sont où toutes les petites lignes qui existaient auparavant? Parce qu'elles, elles existaient auparavant, ces petites lignes à l'intérieur du département. On a tout rationalisé, mutualisé, spécialisé, concentré, enfin tout, voilà, toujours la même rengaine technocratique, les mêmes mots que vous utilisez, enfin qu'on entend utiliser régulièrement. Et c'est à rebours de tout ça qu'il faut aller. Donc il faut relocaliser les services et la vie de tous les jours, relocaliser les emplois, il faut remettre un maillage territorial des services publics, etc. Et c'est tout ce qui est dit, ce qui est porté. Et on voit là le scandale, l'attitude hautaine, méprisante d'un Premier ministre, d'un Édouard Philippe ou d'un Emmanuel Macron, qui explique que, ah bon, vous voulez moins de taxes, et bien ce sera moins de services publics. Ces gens-là sont des cyniques. Parce qu'on sait qu'il y a de l'argent pour remettre en place ces services publics. Juste un moment, effectivement, il y aura des perdants dans l'histoire. Et ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est ceux qui accumulent les richesses tout en haut de la pyramide. Et ceux-là, il faut qu'ils partagent un peu plus.
Vous parliez de la maturité politique du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui caractérise aussi ce mouvement, c'est le rejet d'une certaine classe politique, tout parti inclus.
Oui, il y a un rejet de la politique en général et de la classe politique en général. Après, en particulier, les gens savent quand même faire un peu la différence. Alors, bien sûr, il y en a qui disent « ouais, les politiques, tout se pourrit », mais ils sont eux-mêmes en train de faire de la politique et c'est très bien et c'est tant mieux, même en disant ça. Mais globalement, je trouve que les députés de la France Insoumise sont quand même pas trop mal reçus. En tout cas, les députés qui sont dans les oppositions, même les Républicains, sont pas trop mal reçus quand ils vont discuter avec des Gilets jaunes localement. Donc Emmanuel Macron et la majorité de La République En Marche concentrent quand même l'essentiel des acrimonies. Et c'est normal quand même, parce que c'est eux qui sont en responsabilité. Mais clairement, ce ras-le-bol de cette classe politique, etc., de la politique en général, c'est les gens se disent « on peut l'entendre, mais moi je peux l'entendre. Attendez, j'ai voté Sarkozy ». On me l'a fait à l'envers, j'ai voté Hollande, on me l'a fait à l'envers, je vote Macron, on me l'a fait à l'envers, enfin ça suffit quoi, tous les mêmes. Et ça se tient, je veux dire, le raisonnement se tient pour la masse des gens qui ont voté pour ces candidats qui ont été majoritaires et qui ont été élus dans le pays président de la République avec leur majorité respective. Bon, alors après j'entends, oui, mais regardez, à la fin, le Front National, c'est les seuls, on les a jamais essayés. Ben non, on n'a jamais essayé l'option de la France Insoumise non plus, quand même. Faut quand même le signaler, pas l'oublier, hein. Et qu'il y a quand même des options entre virer tous les étrangers et partager les richesses. On peut quand même se mettre d'accord pour partager les richesses, ça me semble moins violent, plus accueillant, et surtout plus logique, plus rationnel, plus responsable. Faut pas oublier quand même, dans l'intervalle en plus, que la revendication démocratique que portent les gens qui disent « tous pourris », à la fin, ils finissent par dire quoi ? On veut des assemblées citoyennes pour remplacer l'Assemblée nationale. Soit nous qui dirigeons directement. Mais c'est très bien ça. C'est pour ça que nous, on voulait une 6e République dans notre programme. C'est pour ça qu'on proposait qu'il y ait qu'il y ait plus d'intervention directe du peuple dans la politique. On proposait d'ailleurs, et je pense que tous les Gilets jaunes en sont d'accord, qu'on puisse révoquer les élus en cours de mandat. N'importe lequel. Le maire, le député, le président de la République, le conseiller régional, tout le monde. C'est-à-dire que si vous recueillez un certain pourcentage de l'électorat par votre pétition, vous reconvoquez une élection. Et bien ça, c'est très bien. C'est des débouchés politiques, des propositions politiques à l'aspiration aux gens qui peuvent souvent, à juste titre, dire « tous pourris, tous les mêmes », etc. À chaque fois, on se fait avoir. Donc moi, je suis pas mal à l'aise vis-à-vis de ça et ça me va très bien. Il ne s'agit pas de ma petite personne, je ne sais pas quoi, on s'en fiche. En réalité, ce qui compte, c'est les enjeux politiques. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je peux me féliciter d'un mouvement qui n'est pas issu de la France insoumise, qui n'est pas issu d'un mouvement politique ou d'un mouvement syndical, et en être tout à fait heureux.
Alors aujourd'hui, vous intervenez, vous animez une réunion publique du côté de Saint-Nicolas-les-Arras sur le thème de la sécurité. La sécurité, c'est votre thème de travail à l'Assemblée nationale. Un thème pas évident pour quelqu'un de gauche, travailler sur la sécurité.
Oui, bon, si, c'est évident en fait de travailler sur la sécurité quand on est quelqu'un de gauche, en tout cas quelqu'un qui s'inscrit dans une dimension d'intérêt général. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, en tout cas je le réfute, ce débat qui veut dire la droite, c'est la sécurité, et en tout cas le sécuritaire au moins, ça on le sait, et la gauche c'est le laxisme. Non, c'est pas en ces termes-là que ça se pose. En réalité, y compris dans les mouvements les plus autogérés du monde, type Nuit Debout pour ceux qui avaient suivi l'histoire, eh ben, à Nuit Debout, il y avait partout une commission tranquillité.
Sérénité,
ça dépend des endroits, chez nous c'était tranquillité, bon bah c'est pareil. Bien sûr qu'il y a une police interne qui se forme, c'est une forme de police, hein. C'est comment on règle les conflits, c'est vieux comme le monde, donc... déjà rappeler que nous ne sommes pas anti-police, on est pour qu'il y ait une police, mais on est pour qu'il y ait une police républicaine qui agisse de manière égale sur le territoire, avec une doctrine d'emploi qui fasse qu'on ait un rapprochement de la police et de la population, ce qu'avait tenté de faire la police de proximité, à la fois sous le gouvernement Jospin et puis plus avant ça, ce qu'avait mis en place Jox sous Mitterrand. Et en fait, en réalité, quand on regarde scientifiquement, la production scientifique qui a été faite sur cette police de proximité, elle était en réalité bien plus efficace et par certains aspects, je dis bien, bien plus coercitive sur le corps social. Je ne dis pas plus répressive, hein, bien plus coercitive. En tout cas, finalement, elle remplissait son rôle de prévention. Elle remplissait son rôle de prévention qui avait moins d'infractions commises. Après, il y avait des trucs en trompe-l'œil en réalité. C'est ça qui a fait dire que la gauche était laxiste en 2002, enfin sur la période donnée de Jospin 97-2002. C'est qu'il y a une augmentation des plaintes. Et en fait, c'est pas compliqué de pourquoi il y a une augmentation des plaintes. Quand vous augmentez la proximité, quand vous rouvrez des commissariats, les gens, c'est plus facile pour eux de déposer plainte. C'est juste qu'avant, ils ne déposaient pas plainte. Et que quand on a ouvert ces commissariats, ils ont saisi l'opportunité de déposer plainte. Alors comme c'était le seul indicateur qu'on suivait pour savoir quel était le niveau de la délinquance, c'est dit « Ah, explosion de la délinquance », etc. Non, c'est juste que quelque chose qui était sous le radar avant, qu'on ne mesurait pas, nous est apparu au grand jour à ce moment-là. Par ailleurs, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur avant d'être élu. J'étais 4 ans attaché d'administration au ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je me suis notamment intéressé à cette problématique. Je travaillais pour les policiers et les gendarmes. Je m'occupais de leur comptabilité, en réalité, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis, j'ai creusé, effectivement, et je me suis dit, c'est vrai que, pour le coup, à gauche, en tout cas, dans le front de gauche à l'époque, en 2012, la partie consacrée à la sécurité, qui est une thématique dont les Français discutent majoritairement, quoi, au même titre que l'emploi, au même titre que plein d'autres sujets majeurs, l'éducation, la santé, la sécurité est devenue un thème important. On ne pouvait pas faire 3 pages sur la sécurité. Il ne suffisait pas de dire, bah, nous, on veut une police plus sympathique, j'en sais rien, c'est même pas ça, l'objectif, c'est même pas une police plus sympathique. C'est qu'il y ait une méthode d'utilisation des forces de police qui fasse qu'elles soient mieux insérées dans la population et qu'elles correspondent plus davantage à la population. Et pour ça, il y a des moyens. Il faut revoir la formation de la police nationale. Aujourd'hui, la formation, c'est 9 mois parce qu'on recrute à tour de bras. Jusqu'à présent, c'était 1 an. Au moment où la police a été passée à 1 an, c'était un progrès dans toute l'Europe. On était le premier pays à avoir une aussi longue formation initiale pour les policiers. Sauf que le niveau d'attente, de compétences ou de qualifications qu'on attend d'un policier, il a augmenté. Il n'est pas rare, il y a un certain nombre de pays où c'est 3 ans la formation initiale pour être policier. 3 ans. Et nous, on est resté bloqué 1 an, on est même redescendu à 9 mois. Donc il faut augmenter la durée de formation. Il faut augmenter les effectifs, mais ça, parce que Sarkozy, il a tout ratiboisé, et au premier chef desquels des personnels administratifs dont j'étais, parce que les policiers ont pas, on n'a pas forcément besoin de plus de policiers, mais ils ont besoin de se dégager du temps pour être plus sur le terrain et plus sur des missions opérationnelles et pas sur des missions annexes qui sont néanmoins importantes. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient traitées, donc embaucher des personnels administratifs. Il faut ensuite qu'on mette un grand plan de reconstruction de commissariats, en tout cas de postes de police de proximité. Et il faut qu'on fasse en sorte que les actuels commissariats soient un peu clean, quoi, propres, décents, respectueux de celui qui vient déposer plainte ou respectueux de celui qui est prévenu, qui a fait une connerie, qui est auteur d'une infraction. Je suis allé tout à l'heure visiter le commissariat ici à Arras. Bon, les geôles, elles ne sont pas aux normes européennes. Hein. Les normes européennes, c'est quoi? C'est d'avoir dans les geôles une douche et des toilettes. D'accord ? Donc là, vous n'avez rien du tout. Et puis, elles sont dans un état un peu... Enfin, franchement, c'est triste. Hein. Les policiers eux-mêmes le disent. Écoutez, on fait avec les geôles qu'on a. Quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, elles ne sont pas aux normes. Et il y a un projet de construire un commissariat ou regrouper avec les services administratifs, mais qui verra le jour peut-être quoi dans 5-6 ans. Donc, pendant encore 5-6 ans, on va accueillir les auteurs d'infractions dans des conditions dégueulasses. Voilà. C'est ça la réalité, et les conditions dégueulasses pour les auteurs, c'est les mêmes conditions que vivent les policiers. Comme il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, ça peut paraître idiot ce que je vais raconter, mais du coup, il faut bien que celui qui est là il puisse aller faire pipi ou demander d'aller prendre une douche. Du coup, ça fait, le policier, ça lui fait faire des mouvements en permanence, le risque d'évasion, il est beaucoup plus élevé, donc le risque de confrontation, il est beaucoup plus élevé, la tension augmente. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui sont de l'ordre du bâtimentaire. Et la confidentialité aussi, quand on vient de déposer plainte, c'est quelque chose d'important. Les hôtels de police tout neufs, flambant neufs, il y a d'autres problématiques hein, dans ces grands bazars, mais au moins, vous avez un bureau, il y a un peu de confidentialité, etc. Le commissariat du coin, dès que vous sortez des très grandes villes, enfin, les murs sont en carton, quoi. Vous n'avez aucune espèce de confidentialité. Et après, on vient se demander pourquoi les femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes n'osent pas déposer plainte. Vu les conditions dans lesquelles les gens sont reçus dans les commissariats, ça peut se comprendre quand même. Donc c'est un ensemble général et il faut s'attaquer à ces problématiques-là. Et puis sur la doctrine, il faut arrêter que cette police de réaction qui est concentrée que sur les appels du 17 et qui n'est que là que quand ça ne va pas. Quoi. Que quand c'est déjà le bazar, où il y a déjà un problème. Donc il faut permettre aux policiers, justement en leur dégageant du temps, aller discuter avec les commerçants, discuter avec les associations. Et puis on proposait notamment que, vous savez, il y a des trucs qui existent, les gens ne savent pas, mais des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est des réunions où les gens se réunissent, donc les policiers, les bailleurs sociaux, les élus, des éducateurs de rue, des médiateurs, et ils échangent des informations. Ben moi je suis pour que ce truc-là, une fois par an, il soit en réunion plénière avec les habitants, et que les policiers puissent rendre compte sur ce qu'ils ont fait pendant l'année, que les gens sachent, et que les gens puissent dire, ben, ça, par exemple, vous ne faites jamais rien. Mais avec les élus aussi qui sont là, hein, les élus locaux, parce que des fois, le policier dit, mais écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas moi qui gère l'urbanisme, hein, donc demandez ça au maire. Mais je suis d'accord avec vous. Et d'avoir cet échange et cette interaction qu'on peut avoir dans d'autres pays. Bref, c'est ça en réalité un programme progressiste, en tout cas de la France insoumise en matière de sécurité, et ça semble important de le dire, et d'ailleurs ça avait été remarqué par plusieurs spécialistes pendant la campagne présidentielle, qui était en réalité le programme le plus fourni, le plus réfléchi. Après on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur le fait de faire ça, hein, mais en tout cas c'était sans doute le plus abouti, et c'est pour ça que je continue de le défendre à l'Assemblée nationale, et oui je suis à la commission des lois, et c'est là que ça se passe pour les thématiques sécurité et justice.
Dernière question, Hugo Bernalicis, ça va nous ramener à l'actu sociale, mais toujours cette fois-ci donc en lien avec ce thème de la sécurité. Comment vous avez vu la gestion policière, voire militaire, des manifestations dans les grandes villes en France?
Écoutez, c'est compliqué pour les policiers de gérer ce genre de mouvement qui est tout simplement autogéré, spontané, etc. C'est pas comme un syndicat qui dépose un parcours, on sait à peu près comment ça se passe, on voit qui sont les éléments perturbateurs de d'habitude, bon, ça se gère. Et donc, du coup, dans ces moments-là, quand ça pète, une manifestation classique, bon, on sait qu'il y a globalement au moins une volonté, un minimum de volonté politique, que ça dégénère ou pas. Bon, après, il y a des faits extraordinaires à certains moments, mais... Bref, on connaît, on a l'habitude. Là, c'était vraiment compliqué pour les policiers, d'une part aussi parce qu'ils n'en peuvent plus. 13 millions d'heures supplémentaires non payées en 2017. Et en fait, du coup, 13 millions d'heures supplémentaires, parce que la plupart, elles sont jamais payées. C'est l'équivalent de je ne sais plus combien de postes, 7 000 postes, je crois, ou 10 000 postes dans la police. Enfin, c'est quelque chose d'énorme et de colossal. Ils en peuvent déjà plus. Et là, on va les réquisitionner plusieurs samedis de suite sur des moments de haute tension sur lesquels ils peuvent rien changer. C'est un mouvement politique et donc le meilleur moyen d'apaiser les gens et d'apaiser les violences, c'est que le pouvoir cède politiquement. Et tant qu'il ne cède pas, ceux qui sont en première ligne, c'est les policiers et les gendarmes. Néanmoins, je peux dire bravo à la police quand ça se passe bien. D'accord ? Et il y a des tas d'endroits où ça se passe bien, sur des ronds-points où on voit des policiers, des gendarmes qui boivent le café avec les gilets jaunes, parce que bon, bah, ils se les caillent toute la journée ensemble, pour les mêmes raisons, mais ils sont là, bon, et il y a un peu de fraternité, en tout cas de fraternité humaine, le minimum syndical qui s'installe. Mais quand je vois ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, vous savez, ces élèves, ces lycéens qui ont été alignés à 150 lycéens qui ont été alignés les mains dans l'eau et qu'on voit un policier qui est content de les voir comme ça, les humilie d'une certaine manière, et ensuite s'en vante et publie la vidéo à la base sur les réseaux internes à la police, hein, entre eux, et puis la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. C'est tout bonnement intolérable. Voilà, c'est tout bonnement intolérable. Quand je vois le gamin qui a l'œil défoncé, je dis un gamin, il doit avoir 19 ou 20 ans, qui s'est fait poursuivre dans une des rues à Paris, et il lui tombe à 6 dessus, 6 ou 7, et il le tabasse, c'est pas le code de déontologie de la police, ça. Ça, c'est des policiers, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'ils sont à bout, peut-être des raisons, mais c'est pas, en l'occurrence, excusable à ce moment-là. Quand je vois les tirs de flashball, le LBD, ça s'appelle le terme technique, dans le visage, avec déjà deux œils qui sont perdus, enfin deux personnes qui ont perdu leur œil, l'usage de leur œil, bon, non, c'est pas acceptable. Les grenades de désencerclement ou les grenades lacrymo qui comprennent les GLI F4, là, GLI F4. Trois personnes ont perdu leur main, dont un policier en le dégoupillant à la réunion qui ça lui a explosé dans la main. Je sais pas, est-ce que moi je suis pas favorable à la violence, je suis pour les mouvements pacifiques, donc je suis pas favorable à la violence, ni celle des manifestants ni celle des policiers, d'accord, et je suis pas là pour dire il y aurait une violence plus ou moins correcte que l'autre. Non, je suis pas pour la violence parce que ça dessert notre cause à chaque fois. Et puis on peut se pouiller politiquement sans pour autant perdre une main, perdre un œil, etc. Parce que perdre une main, c'est pour toujours. Hein. C'est pas que pour la manif. Perdre un œil, c'est pareil. Donc, à un moment donné, moi, j'appelle au calme au gouvernement. Si j'ai un appel au calme à lancer, c'est au gouvernement, quoi. Baissez d'un cran, quoi. Calmez-vous. Reposez-vous. Regardez comment ça se fait dans un certain nombre de manifestations en Allemagne. Par exemple, il y a des stratégies de désescalade. Ils essayent d'être le plus effacés possible, les policiers, et d'intervenir que quand c'est nécessaire. Là, on fait le contraire. On essaie d'être le plus visible possible. Et donc, forcément, ça augmente les tensions. Forcément, ça augmente les tensions. Et puis, dans l'intervalle, vous avez ceux qui profitent de la situation, qui viennent piller un truc, casser un machin, etc. Quoi. Voilà. Ça, c'est pas acceptable et pas souhaitable non plus. Mais clairement, c'est pas une bonne gestion du maintien de l'ordre. C'est pas une bonne gestion. Et les policiers et les gendarmes qui font globalement qu'obéir aux ordres sont mis dans une situation de tension et de stress qui est telle que c'est un miracle que samedi, l'acte 4, il n'y ait pas eu de mort. Vraiment, il y a eu beaucoup de blessés. On les a au compte-gouttes. Il y a eu beaucoup d'interpellations aussi préventives, une chose un peu nouvelle, qui n'est pas vraiment dans le code pénal. Alors, on nous dit que c'est parce qu'il y avait eu des infractions, mais j'y crois pas une seule seconde. Vraiment, j'appelle au calme, vraiment, de ce gouvernement. Ça me semble extrêmement important.